On retrouve maintenant Samuel des alvéoles, donc ingénieur agronome des alvéoles. Donc Samuel, je te laisse te présenter rapidement.
Eh ben donc, je m'appelle Samuel, je suis voilà, installé dans le département de la Drôme, au sein d'une entreprise qui s'appelle les Alvéoles, où on a une pépinière, un bureau d'études et un centre de formation en permaculture. Voilà. Et sinon, moi, je suis originaire du nord de la France, je suis un fils d'agriculteur, j'ai fait des études donc d'agronomie, et j'ai aussi cofondé une ferme expérimentale et pédagogique en permaculture dans la Drôme qui s'appelle l'Oasis de Sérendip.
Ok, trop bien. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer sur les questions. Alors, première question, imagine tu as un jardinier débutant devant toi qui lance son premier potager et qui a envie que ce soit une belle réussite. Tu ne peux lui donner que deux questions, deux conseils pour qu'il ait le plus de chances de réussir. Ce serait quoi ces deux conseils?
Alors il y a vraiment pour moi quelque chose d'assez clé en fait dans le démarrage d'un projet de potager, c'est le fait de commencer petit. Donc c'est un grand classique en permaculture. Il y a un des principes de la permaculture qui est justement de commencer petit et de rajouter petit et simple et de rajouter petit à petit des gradients de complexité. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des clés. Et puis la deuxième chose pour moi, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se donner un objectif pas trop ambitieux la première année. Par exemple, ça pourrait être voilà, mon objectif, c'est on imagine que cette personne, on est au printemps et qu'elle veut se lancer. Ça pourrait être de dire, par exemple, cet été au mois d'août, j'invite des amis, de la famille, et puis je fais un repas 100% voilà, sorti de mon potager. Mais surtout ne pas partir dans l'optique de me dire je vais être autonome ou je vais voilà, vraiment de se fixer un petit objectif pour une première année.
Ok, très clair. Donc finalement deux conseils qui vont dans le sens de la motivation, garder la motivation sur la durée, parce que si on commence trop grand ou si on a des objectifs trop élevés et qu'on ne les suit pas, ben on se démotive assez rapidement. Deuxième question, quels sont les trois légumes que tu conseillerais pour un potager hyper simple et productif?
Clairement, je partirais sur probablement une fabacée, donc peut-être par exemple la fève ou le haricot. Peut-être la fève d'ailleurs plus que le haricot. Pourquoi? Parce que c'est hyper valorisant. C'est facile à semer, ça, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de risque de se planter au niveau du semis. Il n'y a pas tellement de risque non plus de perdre sa récolte avec les intempéries. Bon, il peut toujours se passer des choses, hein, mais c'est vraiment hyper facile. Et en plus de ça, c'est une plante qui peut satisfaire, enfin, c'est une famille, les fabacées, avant on les appelait les légumineuses, famille de plantes qui se satisfont de vraiment tout type de sol. Donc en fait, on n'a même pas besoin de très bien connaître son jardin, on n'a pas besoin de savoir si il a déjà beaucoup de matière organique ou pas, s'il est sableux, argileux, s'il est acide ou s'il est calcaire. En fait, on sème, ça pousse, on récolte et c'est top. Donc moi je mettrais ça, probablement. Ensuite je mettrais probablement une cucurbitacée, donc peut-être un potimarron par exemple. Facile, grosse graine. Pas de problème non plus au semis, il faut faire un petit peu attention aux limaces au démarrage. Et moi, ce qui me plaît dans le fait de mettre une cucurbitacée dans le potager une première année, c'est le fait d'avoir un gros fruit bien costaud, voilà, qui est aussi voilà,
Tu es
valeur.
fier d'avoir
Voilà, à la fin, tu dis, oh,
porté
t'as
le
vu,
brevet et dire
c'est ça.
j'ai fait mon petit marron.
Ça va, t'as vu mon potimarron? Waouh, énorme! Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis après, je pense que j'irai vers une plante. Je pense que j'irai vers une vivace. Peut-être la rhubarbe. Alors pourquoi la rhubarbe? Alors déjà parce que moi j'adore la rhubarbe, la manger. Ensuite parce que les vivaces, je pense que c'est vraiment pour moi une clé pour comprendre que le potager c'est pas forcément un délire où on fait table rase chaque année et on repart de zéro. C'est cool aussi de planter des trucs qui vont être là chaque année, qui vont repousser chaque année. En plus, ça fait des grandes feuilles, c'est plutôt ornemental. Voilà, c'est hyper résistant. Une fois qu'un pied de rhubarbe s'est installé au bout d'un an ou deux, après, bah voilà, il n'y a plus vraiment de choses à faire, quoi. Ça roule tout seul. Donc voilà, et puis moi j'utilise les. Donc je mange évidemment la tige de la rhubarbe, mais j'utilise aussi les feuilles en paillage ou comme apport de matière organique. Donc c'est aussi une manière de tout utiliser, quoi. On fait pas de déchets.
Ok, super, donc rhubarbe, plante à tout faire dans un potager et apparemment facile à produire du coup
Ouais.
et surtout perpétuel. Est-ce que tu as deux autres conseils pour un potager hyper simple et productif et le plus autonome possible aussi, toujours dans cette même démarche?
Un conseil que je donne souvent, alors c'est plutôt des conseils en termes de conception du potager, parce que en fait, moi, mon métier, c'est de la conception. Donc, c'est vraiment comment j'organise les choses, comment je réfléchis les choses. Je vais partir de deux erreurs un peu courantes. Une erreur courante, c'est de marcher partout. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je vois encore dans beaucoup de jardins et en permaculture, on essaie vraiment de faire en sorte de du moins possible toucher les sols, les laisser les plus possible respirer. Une des choses qu'il faut savoir, par exemple, on parle beaucoup des problématiques d'eau et de sécheresse, c'est qu'en fait, un sol, ça s'humidifie par dessous. Donc, en fait, l'humidité remonte dans le sol par capillarité. L'humidité, elle est présente dans le sol. Dès qu'on gratte un peu profondément, le sol, il est humide. Et elle remonte par capillarité. C'est comme ça que les plantes, elles sont en dehors des pluies, hein, des moments où il pleut, où là, ça tombe, ça tombe du ciel. Sinon, en fait, en dehors de ces moments-là, quelques jours après une pluie, en fait, le sol, s'il reste humide, c'est parce que l'humidité, elle remonte. Mais pour qu'elle puisse remonter, il faut qu'il y ait des dégagements gazeux. Donc, ça veut dire qu'il faut que le sol, il soit pas tassé en surface. S'il y a une croûte en surface ou s'il est tassé en surface, il n'y a plus de dégagement gazeux. Et donc, du coup, il n'y a plus de capillarité et l'eau ne remonte plus et les légumes commencent à souffrir de la sécheresse. Donc, il ne faut pas tasser son sol et donc, il ne faut pas le piétiner. Et donc, le premier conseil, c'est pardon. Donc, le premier conseil, c'est de séparer de façon très claire les zones piétinées des zones qui ne le sont pas. Donc, d'avoir des vraies allées, des endroits où on sait qu'on va marcher, on va passer avec la brouette, on va passer, etc. Et des vrais endroits où on ne marche pas, y compris quand on a besoin de jardiner ou d'accéder à des endroits. Donc si vous avez besoin de marcher sur une zone de culture, ben, ou de vous agenouiller, etc., ben, vous mettez une planche, vous mettez quelque chose pour essayer de protéger et surtout ne pas tasser le sol. Ça, c'est le premier conseil. Je fais la réponse trop longue.
Non, c'est parfait.
Ok. Et le deuxième conseil, c'est pareil, c'est lié à quelque chose que je vois souvent, c'est surtout ne pas ramener du broyat de bois dans son jardin.
Ok.
Alors, ça, c'est un truc que beaucoup de gens font. Ouais.
Vas-y, non, je
Ouais.
pense à un truc direct.
Ouais.
Tu connais sur YouTube le potager de Lunas?
Non.
Tu connais pas? C'est un monsieur
Ouais.
qui jardine qu'avec du broyat.
Ouais.
Jardinier qu'avec du broyat.
Alors,
Il arrive à avoir des bons résultats.
est-ce qu'il fait
Attends,
du.
je te laisse
Ouais.
continuer.
Ouais.
Vas-y, je te laisse continuer, on en reparlera.
Ouais. Est-ce qu'il fait du BRF? Ouais, on. Ouais.
Non, c'est du broyage.
C'est que du broyat. Ok.
Vas-y, parle
En
de
tout
ça
cas,
et
alors
après.
moi, un des problèmes que je vois souvent, très 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 souvent, c'est en fait des jardiniers qui ont des problématiques bah, de rendement, tout simplement, quoi. Ils me disent, ouais, j'ai des tout petits légumes, ou alors j'ai jamais de fruits, etc. Et en fait, quand je vais voir le potager, bah, ils ont étalé du broyat de bois sur leur potager. Qu'est-ce qui se passe? Le broyat de bois, c'est très riche en carbone. Le carbone, en fait, a besoin d'azote pour se dégrader. Et les légumes ont besoin d'azote pour pousser. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'amène du broyat, notamment au printemps, au moment où les plantes ont le plus besoin de cet azote pour pousser? On va provoquer ce qu'on appelle une fin d'azote, FAIM, la fin d'azote. C'est quoi la fin d'azote? C'est qu'en fait, on a créé une concurrence. Le broyat de bois est en train d'absorber tout l'azote pour se dégrader. Et du coup, les plantes n'ont plus d'azote pour leur propre croissance. Et donc, bah, ils finissent par mourir ou ne jamais pousser, quoi. Donc, ou mal pousser. Voilà. Donc si vous voulez utiliser du broyat de bois, il faut faire ce qu'on appelle du BRF. Le BRF, c'est une technique qui consiste à broyer des jeunes rameaux, donc avec un diamètre pas plus qu'une pièce de 1 euro, en frais, donc au printemps, au moment où ils sont verts, en pleine poussée de sève, et de le broyer et de l'appliquer directement, c'est-à-dire pas attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, c'est trop tard, c'est plus du BRF. Donc ça doit se mettre dans la journée sur le potager. Et éventuellement de couvrir ça avec de la paille, un paillis. Parce qu'en fait, le problème de laisser un BRF ou en fait n'importe quel apport hein, au soleil, enfin voilà, à même au-dessus du sol sans le couvrir, c'est que bah, du coup l'eau va s'évaporer. D'accord? Donc vous allez perdre l'eau. Et l'azote aussi va s'évaporer, parce que l'azote il peut se transformer et voilà, se transformer en vapeur. Donc du coup l'idéal c'est de pailler tout ça, de le protéger du rayonnement solaire pour du coup qu'il puisse se dégrader dans le sol et venir l'enrichir. Voilà. Donc si après vous avez des grosses ressources en broyat de bois et que vous voulez quand même l'utiliser, deux possibilités. Une des possibilités c'est de l'amener à l'automne, donc avant l'hiver en fait, pour que du coup il ait le temps de faire son travail de début de décomposition, et donc c'est peut-être ce qui se passe par exemple au potager de Lunas. Et deuxième technique, c'est de plutôt le réserver pour les allées ou de le composter en tas à part. Et ensuite, une fois qu'il est composté ou une fois qu'il a passé un peu de temps dans les allées, ben vous pouvez l'amener quand il est déjà en cours de décomposition dans vos parcelles, si vous voulez rajouter dans vos parcelles.
Ok, très clair, donc merci beaucoup. Et pour revenir sur le potager de Lunas, en fait, ce monsieur, il jardine qu'avec ça.
Ouais.
C'est pas que à des périodes spécifiques, c'est vraiment que du couche de la couche de broya importante. Et d'ailleurs, sur YouTube, généralement, il est pas en conflit, mais en conflit d'idées, on va dire. En conflit d'idéologie avec Olivier du potager
Oui,
Olivier Poëche, je sais
je
pas
vois
si tu
bien.
connais. Parce que lui a une vision un peu plus. Comment dire? Bon, il a un sol qui est différent aussi, une expérience qui est différente. Et lui, de ce qu'il a expérimenté, peut-être de ce qu'il a appris, a justement cette vision de besoin d'une couverture de sol équilibrée, d'un rapport CN équilibré. Et du coup, souvent, ils sont en conflit dans les commentaires ou sous les vidéos, tout ça. Donc, ça, je trouve, c'est encore un des points sur lequel il n'y a pas un éclaircissement total aujourd'hui dans le monde du potager. En tout cas, il y a encore beaucoup de débats là-dessus et il y a des théories très complexes qui permettraient apparemment d'expliquer pourquoi est-ce que le broyat dans certaines conditions permettrait de ne pas avoir de fin d'azote.
Bah si, genre je sais pas, mais par exemple,
Peut-être
une
c'est
des
un sol
choses.
particulier aussi, hein.
Ouais, alors c'est possible que ce soit un sol particulier. Moi, ce qui me vient, c'est que si on a une technique d'apport de broyat régulier qui se fait sur un sol où il y a déjà du broyat qui est en décomposition. C'est-à-dire qu'en fait, au début, quand on démarre, c'est là où il y a la fin d'azote. Mais après, si lui, il a fait ça, et puis qu'en fait, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, son potager,
C'est un humus, du coup ça
voilà,
minéralise
voilà,
et...
ça minéralise, et donc là, il n'y a plus de problème, quoi. Mais moi, ce que je vois ça, c'est plutôt dans la perspective de quand on est débutant et qu'on démarre, surtout ne pas faire un apport de broyat, parce
Oui, c'est vrai.
que là, on risque d'avoir vraiment. Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je pense que, sauf si vous arrivez dans un sol hyper riche, et du coup, vous aurez suffisamment d'azote à la fois pour dégrader le broyat et à la fois pour vos plantes. Mais dans tous les autres cas de figure, vous allez faire pire que mieux, vous allez affamer vos plantes, quoi. Donc,
Ok.
je suis assez formel, pas de broyat, je tranche.
Surtout pour les
Team Olivier.
débutants,
Surtout pour les débutants,
Team Olivier. Surtout pour les débutants, parce que la question c'était sur les débutants, donc
Voilà, c'est ça.
c'était bien de reprécier
De
ça. Et
repréciser.
en plus, je suis totalement d'accord. Moi, je suis plus dans la même dans l'idée de suivre ce que dit Didier Hamstetter. C'est-à-dire, lui, il est partisan du foin, parce que le foin, c'est vraiment le paillage équilibré par excellence et hyper simple à faire, parce que c'est tu mets ton foin et t'attends que ça se décompose. Et c'est cellulosique, ça nourrit le ver de terre. Enfin bref, il y a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là aussi.
Deux petits bémols. En tout cas, point d'attention, c'est un, il faut faire du foin avant la montée en graines des herbes que tu vas
Oui,
faner.
si on fait son
Ouais,
foin
si tu fais
nous-mêmes,
ton
ouais.
foin toi-même ou si tu en récupères. Parce que sinon, tu vas semer dans ton jardin, dans ton potager, le foin.
Après, si t'as une couche de 20 cm, les graines ne pourront pas forcément germer
Ah
là où
bah.
t'as paillé
Ah bah
sur
si,
20 cm.
bah, alors du coup je vais à la question suivante.
Oui, pardon, vas-y, on y va à
Quelles
la question suivante.
sont les deux erreurs que tu as faites?
Ouais. Et qui t'ont apporté les meilleures leçons.
Voilà. Et ben par exemple j'ai paillé
Très bien.
avec du foin.
Fais une transition.
Une excellente transition. Et en fait qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai semé parce que même si tu as une couche très épaisse, en fait au printemps l'année d'après tu vas avoir toutes les graminées qui ont servi à faire du foin qui vont lever. Donc j'ai fait un champ de foin, enfin un champ de graminées.
T'as produit ton foin du coup.
Après, j'ai produit mon foin, mais j'avais plus de légumes, du coup. Donc, non, non, ça, c'est vraiment une des choses que j'ai déjà faites. Et clairement, je sais maintenant que si je veux mettre du foin. Non, il y a un deuxième problème avec le foin, c'est que c'est léger. Et moi, je suis dans la vallée du Rhône, donc un couloir venteux. Et du coup, ça a tendance à s'envoler plus facilement que la paille.
Même en plaque, quand tu mets des plaques
Ah ouais.
de
Ah ouais.
20 cm.
Ouais,
Ah
moi,
ouais.
j'ai du foin qui part. Ouais. Alors,
La
peut-être
vallée,
que.
t'es dans la vallée du vent.
La vallée du vent, ouais. Non, mais peut-être que j'ai pas trouvé exactement la bonne technique. Mais en tout cas, quand j'utilise du foin, à chaque fois, je suis obligé de lester, mettre des morceaux de bois sur mon foin pour que ça reste. Voilà. Et le deuxième problème, c'est donc les graines, la montée en graines. Et donc, du coup, maintenant, soit je fais moi-même mon foin et donc je le récolte avant les graines. Ou soit, si je le récupère, bah, j'essaie de faire en sorte de vérifier que c'était plutôt une première coupe de foin parce que souvent, les premières coupes de foin chez les agriculteurs, il n'y a pas de graines. Et j'essaye d'éviter les deuxièmes coupes ou les troisièmes coupes où là, il y a tout de suite des graines quoi, dans le foin. Donc
Ok,
voilà.
on va lancer sinon.
Ouais.
Une astuce secrète qui te facilite la vie au potager? Secrète ou moins secrète, je sais pas.
Une astuce secrète qui me facilite la vie au potager. Alors, ouais, c'est vraiment des petites astuces, elles sont pas très secrètes, mais moi j'utilise beaucoup les cagettes retournées. Pour refaire des petites ombrières quand je sème, notamment à partir du moment où il fait beau. Donc je sème, hop, cagette retournée, j'attends que ça lève, et une fois que c'est élevé, je retire les cagettes et je ramène mon paillage le long de mes petites plantules. Donc ça, c'est une astuce vraiment, c'est un truc bête, mais ça fait vraiment gagner du temps et ça me permet d'éviter que bah voilà, mes plants ils soient en plein soleil, mes petites plantules soient en plein soleil. Voilà.
Pour les salades, du coup, si ça peut marcher en plein été, ça peut
Tout.
être intéressant, j'imagine.
Ouais, carrément, tout. En fait, dès que je sème quelque chose, à partir du 15 juin, même du 1er juin, je sème, j'arrose, cagette par-dessus, retourner, je viens surveiller, et dès que ça a commencé à lever et que ça fait, disons, 2 cm, 2-3 cm, j'enlève les cagettes et je ramène mon paillage le long de mes plantules. Donc voilà, petite astuce. Une autre astuce, toujours en lien avec le semis, c'est je fais pas mal de faux semis. Le faux semis, c'est une technique qui est. En fait, on fait comme si on allait semer, donc on prépare le sol, voilà, etc. On arrose, etc. Comme si on avait semé, sauf qu'on n'a rien semé. Et du coup, là, on attend, tout pousse, donc notamment toute la végétation spontanée, voilà, toutes les graines germent. Et là, soit je fais une occultation avec une bâche ou avec un carton, etc., pour faire mourir, soit je désherbe rapidement tout ce qui a levé. Et là, je retravaille mon sol et je fais le vrai semis cette fois-ci. Et du coup, j'ai beaucoup moins de concurrence. Et du coup, ça me permet de limiter mon travail de désherbage en été. Donc voilà, ça c'est vraiment cool, faux semis. Et après, une astuce plus sur le long terme, c'est plus un conseil qu'une astuce en fait. C'est noter ce que vous faites, faites un vrai calendrier de bord, enfin un vrai carnet de bord de tout ce que vous faites, à quelle date j'ai semé, qu'est-ce qui a marché, pas marché, j'ai eu tel problème, j'ai eu une pourriture de ci, de ça. Plus on note ce qu'on fait, surtout dans les débuts où on fait beaucoup d'erreurs, et plus on peut corriger. Alors que sinon, on répète, on répète, on répète les mêmes erreurs et on se souvient plus en fait ce qu'on avait fait l'année précédente. Ah mince, est-ce que c'est à cette époque-ci? Ah, je me souviens que j'avais dû semer 2 fois des carottes, mais c'était à quel moment, le moment où ça avait vraiment marché? Et en fait, du coup, on n'arrive pas à vraiment progresser. Un vrai truc pour vraiment progresser, c'est de noter. Alors, ça correspond pas à tous les tempéraments. Il y a des jardiniers qui adorent ça parce qu'ils ont cet esprit, ce réflexe de noter. Il y a des jardiniers pour qui ça, c'est un vrai effort. Mais moi, je vous conseille de faire l'effort au démarrage, au moins les 5 premières années de jardinage quand on débute. Parce que c'est là où on fait toutes les erreurs et que là, c'est là qu'on apprend beaucoup, quoi. Après, c'est toujours cool de le faire après, mais les 5 premières années, c'est quasi indispensable si on veut vraiment progresser vite.
Ok, hyper intéressant.
Voilà.
Donc les trois astuces du coup au lieu d'une. Donc il y en a
Ouais.
deux offertes pour une gratuite hein, aussi. sixième question, le succès dont tu es le plus fier?
Le succès dont je suis le plus fier. La première fois, quand j'ai débuté, hein, vraiment, je me projette quand j'étais jardinier débutant, la première fois où j'ai réussi des carottes, parce qu'en fait j'ai raté plein de fois mes carottes, ça m'a saoulé. J'étais saoulé, quoi. J'étais en mode, ok, mais en fait la carotte, ça veut pas, quoi. C'est pas possible. Pourtant, j'étais
T'as
dans un.
noté ou pas, chaque fois?
Ah, j'avais noté et tout. En plus de ça, j'avais les gens autour de moi, ils réussissaient vachement bien leurs carottes, donc j'avais grave la
Pire.
pression. C'est le pire, c'est le pire. Et en fait, du coup, je donne un peu l'astuce qui a vraiment bien marché pour moi, c'est de vraiment bien tasser au moment de mon semis. Donc, je fais un lit de carottes. Je mélange les graines de carottes avec du sable. Je sème ensemble. Enfin, voilà, je fais ma ligne avec sable et carottes mélangées. Et ensuite, je tasse vraiment avec un petit râteau ou n'importe quoi. Mais il faut vraiment bien tasser et arroser régulièrement. Et vraiment arroser régulièrement jusqu'à la levée. Et c'est long, l'arrivée des carottes. Donc, du coup, ça veut dire d'être présent tous les jours sur un petit arrosage, voilà, pour éviter que, voilà. Et là, ça a commencé à fonctionner. Et là, j'ai commencé à être un peu fier quand
Sublime tes bottes de carottes
C'est
fièrement
ça.
en criant.
C'est ça. Ouais, ça m'a pris un peu de temps quand même pour réussir à les réussir bien, mais au moins j'avais de la levée et j'avais des carottes déjà à manger, quoi.
Ok,
Donc, voilà.
trop cool. C'est vrai que les premières réussites, quand on a eu plusieurs échecs, c'est toujours valorisant.
C'est ça.
Est-ce que tu nous partages ta meilleure anecdote? Si t'en as une, bien sûr. Sinon, tu peux dire Joker.
Une anecdote autour du potager. Une anecdote autour du potager. Quand j'ai commencé à jardiner, en fait, j'étais vachement dans un délire de vouloir goûter plein de trucs nouveaux, quoi, et de tester. Donc, quand j'allais sur les sites de vente de graines, ou voilà, je cherchais toujours des trucs nouveaux. Et puis, en fait, un jour, j'ai semé des plantes sans savoir en fait vraiment ce que c'était, quoi. Parce que voilà, on m'avait dit oh, ça c'est génial, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que je semais des choses que je désherbais ensuite. Parce que en fait, je savais pas vraiment ce que j'avais semé, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble quand ça pousse. Et du coup, au bout d'un moment, bah, comme il y a plein de trucs qui poussent, je retirais les choses qui me semblaient. Voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est vraiment voilà, la caricature du mec qui est à fond, qui veut semer plein de trucs, qui a vraiment envie d'être à bloc, d'avoir plein de trucs dans son potager, et qui, en fait, juste bah, les enlève parce qu'il sait même pas à quoi ça ressemble quand ça a poussé, quoi. Donc, voilà. Donc, moment de ridicule où je me suis auto-blâmé d'être un aussi. Voilà, aussi, je sais pas comment dire ça, mais plein d'enthousiasme quand je démarre le truc et pas un vrai, voilà, un vrai suivi et une vraie connaissance derrière, quoi. Donc, faites enfin, le conseil, ça serait. Ah, voilà, allez-y doucement et si vous vous lancez dans des nouveaux semis, faites pas 50 trucs nouveaux en même temps et ce que vous semez de nouveau, bah, informez-vous sur à quoi ça ressemble quand ça pousse, quand ça fait 2-3 cm, voilà, et de quoi ça a besoin et plein de choses comme ça, quoi.
Ça nous permet de boucler un peu ces questions-là pour revenir sur les premières qui étaient de ne pas penser trop grand, voilà. De démarrer petit, ouais, pour ensuite étendre. Si on commence avec 15 semis différents et 15 types de trucs différents qui fonctionnent tous d'une manière un petit peu différente, ben forcément il y a plus de chances d'échouer parce qu'on connaît moins ce qu'on fait, on sait moins ce qu'on fait, on connaît moins les plantes en question et il y a plus de chances d'échec, plus de chances de se décourager et du coup moins de chances de progresser.
Et plus de chances de désherber des trucs qu'on a semés au départ.
Et dernière question. Bah, je te laisse présenter un peu les alvéoles quand même parce que vous faites un super boulot, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Yes, merci.
Donc vas-y, présente.
Bah, donc les alvéoles, on est donc voilà, tout à l'heure j'ai déjà un peu dit qu'on est une entreprise, on est basé dans la Drôme, à côté de la petite ville de Cré. On a principalement trois activités, une activité de pépinière et donc on produit des arbres pour des systèmes agroforestiers, notamment des jardins-forêts et aussi des haies fruitières. On a aussi une activité de bureau d'études et donc on accompagne des gens qui veulent concevoir leur système. Donc ça peut être des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des collectivités. Donc on fait de la, voilà, de la travail de conception. Et on a une activité de formation, donc ce qu'on appelle l'université des alvéoles, à l'intérieur de laquelle on fait de la formation en présentiel, on fait de la formation en ligne. Et depuis le confinement 2020, on a créé une plateforme de ressources en ligne qui est accessible gratuitement ou à prix libre et conscient pour ceux qui veulent contribuer, qui s'appelle le campus des alvéoles, dans laquelle on organise plein de choses, des soirées, des découvertes, des cours en ligne. Là, par exemple, au mois de mars, on a un cours sur de la greffe à l'arboriculture fruitière avec Evelyne Leterme, qui est l'ancienne directrice du conservatoire végétal d'Aquitaine et qui est une des spécialistes en France de l'arboriculture fruitière écologique, on va dire. On a eu avant ça un cours qui s'appelait Préparer le renouveau printanier autour de la reconnaissance des plantes sauvages comestibles. Avant ça, on a eu un cours de la graine à l'arbre pour les gens qui veulent apprendre à semer des arbres pour chez eux, etc. Et donc, c'est voilà, plein de cours, plein de webinaires sur plein de sujets et aussi des événements. Et donc là, on va faire une journée de greffe générale le 28 mars. Donc c'est une journée entièrement consacrée à la greffe et comme en ce moment bah, le pays est en train de s'embraser et que tout le monde appelle à la greffe générale, nous on a dit qu'on appelait à la greffe générale de notre côté. Et puis au mois d'avril on va faire un festival, ce sera le deuxième festival en ligne du jardin forêt où on va inviter une vingtaine d'intervenants et ça va se passer pendant 3 jours complets avec de 10h le matin jusqu'à 22h30 le soir, plein de témoignages, des retours d'expérience, des cours, plein de choses différentes, quoi. Donc voilà ce qu'on fait aux alvéoles.
Ok, ben merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir donc le site des alvéoles.
Ouais, alvéoles.fr, voilà. Et,
simple.
Et si vous allez sur le campus, du coup, l'inscription est gratuite, vous avez accès à déjà pas mal de ressources. Et si vous participez à prix libre, donc à partir de 1 euro, vous pouvez accéder à l'ensemble de tous les replays, de tout ce qu'on a fait depuis 3 ans sur le campus. En accès gratuit aussi, il y a la base plante des alvéoles. Il y a 160 plantes qui sont décrites. On peut trier en fonction de si j'ai un sol argileux, quelle plante va aller, si j'ai un sol acide, quelle plante va aller. Enfin, on peut faire des tris dessus. Plein de ressources.
Plein de ressources, alors n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment une super base de données
Ouais.
et un super dispositif.
Merci, donc, à toi.
Merci beaucoup et merci de votre attention.